son client. Ils prennent ce qu'on leur propose ou refusent et peuvent même tout refuser et partir, résilier leur contrat. Voilà tout. Voilà comment le groupe Jeune Tout voit la chose. Les colons du continent devient des clients Jeune Tout et ils doivent travailler pour le groupe Jeune Tout. Ils sont locataires à vie et pour leurs descendants, à condition de vouloir travailler pour le groupe et accepter ce qu'il leur propose ou partir. S'ils ne sont plus d'accord, ils résilient leur contrat pour eux et leurs descendants. Il y aura bien entendu, parce que ce n'est pas encore fait, des médecins, cliniques, pharmacies, écoles, ordinateurs. Les écoles seront sur ordinateur. Le tout, bien entendu, playable. Pour la culture, des chaînes de radio, de télévision, des bibliothèques, des discothèques, vidéothèques. Pas de théâtre vivant ou de concert. À quoi bon puisque la télévision est là? La culture est fabriquée par le groupe Jeune Tout et fait partie de ce que l'on doit aux gens, mais ce n'est pas le colon qui fait la culture. Et pour ce qui est de la langue, eh bien, puisque Jeune Tout est français, on parlera le français comme langue officielle. Il y aura des cours de français pour les nouveaux arrivants. Voilà, mais pour le moment, nous n'en sommes qu'au début. Il faut encore attendre un long moment avant d'arriver à ça. Et l'usine travaille en plein rendement. On commence à charger les piliers sur les bateaux pour les plateformes. C'est la plus grande œuvre de tous les temps, mais ce n'est pas la plus extraordinaire. La plus extraordinaire, c'est ce que l'on va faire avec l'ADN, la biotechnique. Mais c'est moins voyant que les fabriquer un continent avec d'énormes piliers.
Thank you.
de vouloir fabriquer un continent. Bien entendu, on a beaucoup parlé de toutes ces embauches et on a dit que c'était la reprise. Mais qu'est-ce que 200 000 personnes à côté de ces 20 millions de chômeurs? L'embauche n'a rien apporté comme changement. Certains ont dit que ça allait faire boule de neige. Et non, ça n'a rien fait du tout. Mais beaucoup de gens, comme nous l'avons dit, rêvent d'aller dans ce nouveau continent et de repartir à zéro. Malheureusement, il n'y a pas que des Français qui rêvent à aller là-bas. Et il va falloir c'est faire un tri. On ne peut pas mettre tout le monde dans le nouveau continent. Alors il va falloir sélectionner. Les journalistes suivent cette aventure et cela fait beaucoup de pub au groupe. Juntou devient le groupe que l'on connaît le plus dans le public. L'on dit Juntou peut tout. Juntou est le plus fort que Dieu. Il bâtit avec Dieu et ce que Dieu n'a pu faire, etc. etc. Dans Fort Jubile, Viquin agrandit son laboratoire. Galien va à Lyon voir ses parents. Son père est fier et heureux de son fils. Il est au salon avec sa femme. Il lui dit en l'embrassant :
j'ai le fils qui est le plus puissant du monde. Ta vie est un roman de Jules Verne. Faire un continent. Qui aurait cru ça ? Tout Lyon parle de toi.
Sa mère lui dit en l'embrassant :
ils veulent tous te voir. Pour une fois que des Lyonnais sont fiers d'un Lyonnais, il faudra que l'on fasse une soirée.
Galien lui dit : je n'aime pas tellement ce genre de choses. Sa mère lui dit :
cela fait longtemps que tu n'as pas fait de soirée. Tu n'en fais jamais à Paris ?
Non, mère. Paris est la ville où je travaille.
Elle lui dit « Eh bien, Lyon sera la ville où tu feras la fête. » Galien lui dit en riant « Faire la fête à Lyon, ce n'est pas possible. Les gens sont trop tristes ou anards. Noir bonnet et bonnet noir. » « Ils sont trop sérieux pour faire la fête. » Sa mère lui dit « Sauf mes amis, Madame de Haute-Bord, de Condorcet, les Pontois, enfin, ce qu'il en reste, Pierre Mathieu Roussillon et son Mathieu, Frédéric Lefort, Frédéric Thomas, si je le retrouve, bien entendu, etc., etc., et Monseigneur Yoga. » Galien lui demande « Il n'est pas parti dans une cité ou en Afrique, celui-là ?» Elle lui dit « Non, il est trop bien chez nous. Il crache dans la soupe, mais ne peut s'en passer. Elle est trop bonne. Il a créé un groupe rap et en est le chanteur. C'est d'un drôle. » Galien lui dit « Je vois la chose. Dans les églises transformées en mosquées, chantant du rap. » Sa mère lui dit « Alors, tu veux que je prépare une soirée ?» Il lui dit « Je ne sais pas. Je suis très occupé, tu sais. » Mais peut-être plus tard, faut savoir se faire désirer, son père lui dit. Tu as tout à fait raison. Et puis, tu as déjà beaucoup de choses à faire, avec toutes tes affaires. Galien lui dit, oui, et puis j'aimerais aussi, c'est un peu voir Philippe. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. J'irai le voir après le dîner. Après le dîner, il va voir Philippe, qui reste toujours le même. Galien est heureux de retrouver Philippe, mais en même temps il est gêné parce qu'il y a Guillaume et la vie qu'il mène sans lui. Lui, Philippe, est heureux de le revoir, il ne se pose pas de questions, il a confiance en lui.
S'allonger tous deux sur le lit.
Galien lui demande « Qu'est-ce que tu ferais si j'avais une autre personne ?» Philippe lui dit « J'en serais très malheureux, mais je te dirais c'est que c'est de ma faute et que je devrais vivre avec toi, à côté de toi. Mais alors pourquoi ne le fais-tu pas ?» Parce que j'aurais trop peur de te gêner. Et puis, je n'aurais rien à faire là-bas. Galien lui dit, si tu veux travailler avec moi, tu peux, fais-moi signe. Puis Galien se dit que ça vaut peut-être mieux qu'il ne soit pas avec lui. Il vaut mieux qu'il ne sache pas ce que l'on fait. Cela lui ferait du mal. D'Amphore est dans le bureau de Riquin. Il lui demande
« J'aimerais savoir si l'ADN a un passé historique, une mémoire des faits. »
Riquin lui dit « Oui, il a une mémoire. Vous l'avez déjà remarqué.
L'enfant lui dit,
« Oui, mais ce dont je veux parler, c'est par exemple, est-ce que d'après l'ADN, une personne âgée peut faire revivre ce qu'elle a vécu, sa vie, quoi ?»
Le cerveau de la personne, oui, mais l'ADN tout seul, je ne crois pas. Mais si vous avez le cerveau, vous faites comme pour Pontois.
L'enfant lui dit,
« Oui, bien sûr, mais ce serait plus simple sans le cerveau, une mémoire cellulaire. »
Requin lui dit, « Si vous voulez, nous allons essayer de prendre de l'ADN et l'interroger. Mais comment peut-il nous répondre et lui nous parler avec un langage informatisé ?» Je ne vois pas.
Les jours passent. On ne parle plus de cette idée parce que l'on veut lancer sur le marché des ordinateurs ultra perfectionnés avec dedans pour la mémoire de l'ADN humain. Mais pas n'importe quel ADN. De l'ADN de chez Freud, des Curie, des membres du Nobel, de Léonard de Vinci, etc., etc. Les ordinateurs uniques au monde sont mis en vente à l'hôtel Drouot à Paris. Vente aux enchères. Le monde entier est là pour acheter son homme célèbre. Pour avoir la joie, l'orgueil de dire « J'ai Pasteur chez moi, c'est, il est ma propriété, etc. » Ces ordinateurs sont vendus à un prix fou. On commence ces enchères très fort, avec 7 millions, le plus bas, et l'on doit monter. Les gens se battent pour avoir leur homme célèbre chez eux. Les Américains se lancent dans la bataille. Ils veulent rafler le plus de grands hommes possible pour pouvoir dire « Victor Hugo est à nous », etc., etc. Pour prendre l'ADN, on est obligé de demander la permission aux familles et aux détenteurs des droits. Les familles ont droit à un pourcentage sur la vente et sur les réalisations que feront plus tard l'ordinateur, et ceci jusqu'à la mort de l'ordinateur. Une fois l'ordinateur mort, l'ADN doit revenir au groupe Gentoo qui le reprendra, le mettra dans un autre et le vendra aux enchères. La vente se fait avec des cris, on se bouscule. Enfin, tout le monde a eu son ordinateur, ou plutôt les ordinateurs ont tous été vendus et à un très bon prix. Le groupe a fait du 300% de bénéfices. Les particuliers vont mettre leur ordinateur dans leur salon, avec au-dessus de l'écran une statuette représentant le grand homme. Les industriels vont faire travailler l'ordinateur pour voir ce qu'il a dans la tête et marquer sur leur brochure « Nous avons Léonard de Vinci qui est une propriété de la banque BNP », etc., etc. Mais malgré tout, le groupe Gentoo a gardé le plus beau, le plus performant, celui qui est le plus cher. C'est l'ordinateur Félicien Pontois qui lui continue à travailler, à entorser de l'argent et à le placer en bourse. Il est extraordinaire. Jamais il n'avait été aussi jeune et performant. Sa fortune a triplé. Le groupe Gentoo devient de plus en plus puissant. un jour qu'il est à Lyon avec Philippe, Philippe lui dit « Te voilà riche, très riche, oui, et qu'est-ce que tu fais pour les autres, ceux qui n'ont rien ?» Galien lui dit « Je les aiderai. » Philippe lui dit « Les aider, comment ? Tu ne peux plus les comprendre. Tu es tellement riche. Pour les comprendre, il faut vivre leur vie. » Galien lui dit « Et toi, tu les comprends ?» Philippe lui répond « Moi, j'essaye, je mêle à eux. Tu ne le diras pas, je te le jure. Eh bien, j'ai loué une pièce dans une rue populaire et je vis près d'eux, avec eux. Comme cela, je peux les aider et mieux les comprendre. Les gens vivent une vie très misérable, tu sais. » Galien soupire et lui dit « Ça fait longtemps que tu fais ça ?»« Depuis 2 ans, depuis que je me suis rendu compte que je ne servais à rien. Je ne voulais pas vivre à tes crochets, et comme je ne trouvais rien à faire, je me suis dit que peut-être que je pourrais aider les autres. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'aider comme ça, sans vivre leur vie, ça ne valait rien. » Galien lui dit « Mais tu ne vis pas complètement leur vie, puisque tu es chez tes parents. » Philippe lui dit « Tu as raison, mais aider sans rien, cela ne mène pas bien loin. Tandis que si l'on a un peu, avec mes parents, j'ai de l'argent et je peux leur prendre des choses et le leur donner. » Galien lui dit « Peut-être, mais si tu le désires, tu as ton refuge. » Tu peux retourner chez tes parents et vivre comme avant. Toi, tu as le choix, tandis que les pauvres ne l'ont pas. Tu ne peux pas vraiment vivre comme eux. Tu ne vis pas vraiment comme eux. Car leur vie, eux, ils ne peuvent pas la quitter à tout instant. Philippe lui répond, et comment faire autrement? Devenir comme eux? Qu'est-ce que ça changera pour eux d'avoir un pauvre de plus avec eux? Non, je trouve que j'ai fait le bon choix, et je l'ai fait. » Galien lui dit, « Et tu as bien fait. » Galien, une fois arrivé à Paris, il rentre chez lui pour se coucher. Et il réfléchit. Et si je faisais comme Philippe, aller vivre avec les pauvres, je pourrais les aider, voir ce qu'ils pensent, ce dont ils ont besoin?
Oui. Je passerai quelques heures par semaine avec eux.
Dans son bureau, il réfléchit sur ce qu'il doit faire pour sa double vie. Bon, tout d'abord un nom. Oui, un nom, voyons. N'importe lequel. La Croix-Denis. Voilà. Bon, une profession. Chômeur. Mais j'étais aide-cuisinier. Voilà. Des vêtements achetés sur le marché, chaussures aussi. Bon, je crois que ça pourra aller. Ah, je n'aurai pas de papier d'identité. On me les a volés. Et je n'ai pas les moyens de m'en faire d'autres. À 10h, il sort, marche à pied, longe la Seine et se dirige jusqu'à ce qu'il trouve un marché forain. Là, il y a des vêtements bon marché, des imports et des vêtements faits spécialement pour ce genre de vente. Fin de série, défaut de fabrication, fin de tissu. Mais ça n'a, c'est le prix est tellement bas que ça n'a aucune importance. Les vêtements sont mis en rack sur des tables en trépied. Les gens se promenant le regardent, les sous-pèsent. On ne peut pas essayer. Galien regarde. Il ne sait pas quoi prendre. Et puis, il prend un costume en tissu qui froisse, gris. Puis une chemise blanche toute simple. Cherche des chaussettes en nylon, mi-bas, grise. Les chaussettes, c'est très important. On remarque les gens chics grâce à leurs chaussettes. Qui sont déguisé en pauvre, cela se voit de suite. Et les souliers aussi. Il prend une paire de souliers, pas des mocassins, mais souliers noirs, plastiques, imitation cuir. Puis une cravate. La cravate doit être neutre et usée, toute simple. Une fois qu'il a acheté tout ça, il s'en retourne chez lui.
Thank you.
fois entré chez lui, il va dans sa chambre. Il sort d'un sac en plastique les vêtements qu'il a achetés. Les froisses pour faire vieux. Ensuite, il cire ses chaussures pour lui enlever le neuf. Pour lui enlever la brioche du neuf. Ensuite, il prend le portefeuille en plastique qu'il a acheté pour mettre un peu d'argent dedans. L'argent servira pour le loyer. Et il s'habille. Quitte ses vêtements. Et s'habille. Une fois habillé, il sort de sa chambre comme ça. Et sort de l'appartement.
Marche à pied, il décide de se diriger dans un quartier assez populaire. Montmartre, pourquoi pas? C'est plus folklorique que populaire, mais l'on peut trouver des endroits encore assez pauvres. après avoir marché pendant une heure, regarder les pancartes à louer. Il va rentrer dans un café pour se reposer un peu. C'est un café petit, genre populaire, le café qui n'a pas changé depuis les années 50. Il n'est pas grand et est sombre dedans. Trois vieux boivent chacun dans leur coin. Il y a de la musique qui provient peut-être d'un poste à radio. Au comptoir, un gros homme à tablier bleu, casquette et cigarette au bec, essuie des verres avec un torchon qui n'a peut-être pas dû être lavé depuis longtemps. Jamais lavé. Galien va au comptoir. Un demi. Le vieux le serre. Et tout en continuant à essuyer ses verres, surpris d'avoir un nouveau client, il demande.
« Vous êtes d'ici ?»«
Non, pas vraiment. Cherche à me loger. Mais quelque chose de pas trop cher. » Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.